Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 22 du Souterrain. Comme à l'habitude, vous êtes avec Matraque pour les prochaines heures. Et là, cette semaine, on a un épisode spécial. J'en avais parlé dans l'épisode 21. On reçoit, dans le fond, le contenu ce soir, c'est exclusivement une entrevue. On reçoit Jasmin Perrault, qui est rédacteur adjoint à la revue Sentier Chasse et Pêche, un magazine qui est connu quand même beaucoup au Québec. Là, c'est quelque chose qui existe depuis les années 70, si je me rappelle bien. Et c'est ça, quiconque est au Québec sait de quelle revue on parle. Jasmin va venir nous jaser de pêche parce que bon, c'est le printemps, c'est le début de la pêche. Fait que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les auditeurs d'avoir une entrevue avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là parce que dans le métal en général, il y a quand même beaucoup de monde qui pratique les activités de plein air, notamment la pêche. Donc, en espérant que ça vous rejoigne un peu. Et avant qu'on aille à l'entrevue, je voudrais vous préciser une nouvelle, en fait. C'est que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si le podcast était disponible notamment sur Spotify et sur YouTube et ça fait en sorte que ben on s'est un peu tanné de pas être là et on a fait une nouvelle version. En fait, il y a deux versions différentes du Souterrain. La première en fait, c'est celle qui est la traditionnelle avec les segments qui sont entrecoupés avec des chansons. Puis ben la nouvelle version que ben moi j'appelle abrégée. Celle qui va être disponible sur Spotify et YouTube, c'est celle-là qui n'a pas de pièces entre les segments. Et pour ceux qui sont habitués à la chronique submergée par la nouveauté avec PY, qui nous fait souvent entendre, mais pas souvent, tout le temps, entendre un extrait pour chaque band ou chaque album qu'ils nous proposent, on a coupé ça. Puis ben, la raison est très simple, en fait. C'est une question simplement de droit d'auteur. C'est le genre d'affaires que les plateformes de comme Spotify puis YouTube sont assez frileuses là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait acheter la paix en faisant une deuxième édition comme ça. C'est le même contenu, sinon pour le reste. C'est juste qu'il va être disponible sur deux plateformes de plus. Puis, ben pour ceux qui veulent avoir le show version intégrale, c'est les médias traditionnels, là, le Balado Québec notamment, puis toutes les autres plateformes comme Apple Podcast, puis je crois, je sais plus, Google s'est rendu quoi, le Google Podcast ou quelque chose du genre. Donc c'est ça, vous pouvez aller vous abonner et partager ça à ceux qui pourraient être intéressés par le show. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la nouvelle de cette semaine. Puis là, ben sans plus tarder, on s'en va à l'entrevue avec Jasmin Perrault. Donc, bonjour Jasmin, comment ça va?
Ça va très bien, et toi, Kevin?
Ça va très bien aussi. Écoute, un gros merci à toi d'être disponible pour faire une entrevue avec moi ce matin. Je voulais savoir, en fait, par rapport... Ben là, nous, évidemment, Le Souterrain, c'est un podcast métal. Avant d'être un pêcheur, t'es aussi un métalleux. J'aimerais ça peut-être que tu, pour le bénéfice des auditeurs, que tu nous racontes un peu ton histoire avec le métal, la passion pour cette musique-là. C'est venu quand? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi?
Je m'en souviens comme si c'était hier. Je sais pas pourquoi ce moment-là m'a marqué tant que ça, mais je m'en souviens. J'étais dans une rencontre familiale... dans une petite ville qui s'appelle La Présentation, dans le coin de Saint-Hyacinthe, tout ça. Là.
OK.
Puis toute ma famille, du côté de ma mère, on était là pour fêter un anniversaire quelconque. Et là, j'ai ma cousine qui est 8-10 ans plus que moi. Elle embarque dans son char, puis là, je vois qu'elle fouille dans les tiroirs de son char un peu. Fait que là, je rentre, je dis « Qu'est-ce que tu cherches? » Elle dit « Ah, je cherche ma musique. » Parce qu'elle dit « J'ai enduré celle de mes parents tout le long du voyage, j'ai goût d'écouter la mienne. » OK, là, je m'assois avec elle. Moi, j'ai genre 12 ans. Okay. Je m'assois avec elle. Je dis « OK, c'est quoi ta musique? » Puis elle me montre la cassette. Ça me vieillit en disant ça, mais la cassette de « Countdown to Extinction » de Megadeth.
Mm-hmm. Ouais.
Là, tu sais, sur le dessus de mémoire, c'est comme quelqu'un qui a les bras ouverts, là, qui regarde vers le ciel, puis qui a un corps un petit peu rabougri.
Ouais, ouais.
Fait que là, je suis comme, c'est intense comme cassette. Là. Je vire ça de bord, puis là, je vois. C'est Vic.
Vic, ouais.
Qui a un boulier, là. Qui,
Le personnage mythique, en fait, de Megadeth, là, c'est comme un peu leur équivalent du Eddie de Iron Maiden, là.
Oui, effectivement. Fait que ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai comme fait « c'est la première fois que j'avais premièrement accès à ce genre d'image-là.
Mm-hmm. »
Disons qu'avant d'écouter ça, Moi, j'étais dans Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, ces choses-là, le, okay. le rock là, des années 80. Et là, à part, puis de mémoire, c'est Skin of My Teeth, la première.
Ouais.
Ouf! Les 3-4 poils que j'avais sur les avant-bras me sont levés, puis hé, hey, boboy, ça m'a rentré dedans, honnêtement.
OK.
Puis là, j'écoutais plus vraiment ce qu'elle me disait. J'écoutais totalement le Ben, Megadeth, puis une chanson après l'autre. D'ailleurs, cet album-là, c'est un chef-d'œuvre, selon moi. Là.
Ouais.
Ça m'a vraiment rentré dedans. Pour ça, je reviens au secondaire. Je reviens dans ma vie de tous les jours. Puis là, moi, je suis dans une petite gang de gars qui trippaient plus sur Nirvana puis tout ça. Là, je me mets à lui parler de métal, puis je me rends compte que pour eux autres, le métal, c'est pas... Non.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est pas vraiment la musique qui les intéresse. Fait que là, j'ai continué à écouter ça en cachette, si je peux dire ainsi. Donc là, ça a été Megadeth très, très, très longtemps. Mais aussi, oui, un peu Metallica, parce que ça allait de soi. Mais là, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au Big Four of Thrash Metal. Là. Donc, Anthrax, Megadeth, Metallica.
Slayer.
Ouais. Après ça, je me suis mis à voir les documentaires de Sam Dunn, je crois qu'il s'appelle, Sam.
Oui, oui. Okay. Qui est anthropologiste. Absolument. Si je me rappelle bien, je pense qu'il est à Vancouver, ce gars-là.
Oui, ça, okay. Je me souviens de ça. Donc, j'ai vu ces deux documentaires. Là, ça a vraiment été une sorte de révélation. Là, je me suis mis à écouter du métal le plus... On monte de niveau, là. Le plus intense possible. Et là, je me suis mis à écouter toutes les bandes que je pouvais, là, Amon Amarth, là, pour ne nommer que celle-là, mais je pourrais en nommer plein.
Okay.
Et c'est encore... je dirais que j'ai quelques groupes que j'aime bien, des petits groupes préférés de rock, mais si tu me demandes mon genre de musique préférée, c'est sûr que c'est le métal.
Mm-hmm. OK. Et là, ça m'amène à mon autre question, parce que là, on va parler de pêche aujourd'hui. Tu sais, le métal, ça brasse, ça dérange, c'est beaucoup de bruit et tout. La pêche, j'ai comme l'impression que un des éléments de base, c'est le silence, là. Qu'est-ce qui t'a amené à la pêche après ça? T'sais? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait avant ou après le métal? Puis, qu'est-ce qui t'a initié et qui a fait que c'est devenu une de tes passions par rapport à ça?
Ben, la pêche, ça a toujours fait partie de ma vie. C'était pas une passion au début, c'était plutôt le fait que je viens d'une famille où il y avait beaucoup de chasseurs et de pêcheurs autour de moi. Et quand mon père, qui avait peut-être 2 semaines de vacances par année, on faisait un petit voyage à Old Orchard aux États-Unis une fois de temps en temps, mais il y avait toujours une partie pêche à quelque part, là.
Okay.
La petite rivière près de chez moi, tout ça. Fait que ça, à ce moment-là, c'était pas une passion, c'était une activité... je dirais père-fils ou bien en famille en général. Tu sais.
C'est souvent comme ça aussi. C'est souvent les parents qui vont t'initier. Tu sais, moi, dans mon entourage, moi, c'est ça. C'est mon père qui m'a initié à ça. J'ai beaucoup de mes amis qui c'est ça. Je pense que c'est vraiment... C'est une passion qui se transmet souvent en famille.
C'est d'une génération à l'autre, honnêtement. Mm-hmm. C'est vraiment une passion. Ça fait partie, j'ai l'impression, de l'ADN du Québécois, parce qu'il y a quand même beaucoup de chasseurs et de pêcheurs au Québec,
malgré
le fait qu'il y a une grosse concentration de gens qui sont dans les villes, une bonne concentration urbaine. Ça change rien au fait que ça se transmet quand même de père en fils ou en famille, peu importe, là, parce que je suis pas juste les pères. Moi, ma mère a pêché, ma grand-mère a pêché activement. Puis même autour de Montréal ou autour de Québec, il y a quand même des beaux territoires. Si on va quelques heures au nord ou quelques heures au sud, là, des beaux lacs, des beaux territoires pour pêcher. Fait que ça me vient de là, l'activité de la pêche en tant que telle, mais quand j'ai véritablement développé ma passion, c'est que je finissais mon université. Puis là, on est comme dans une phase en finissant l'université où on commence à travailler, mais on n'a pas tant de responsabilités que tout. Que ça, au niveau de j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant, j'ai du temps libre pas mal. Fait que là, oui, j'aime bien lire, j'aime bien jouer de la musique, j'aime bien écouter du métal, mais j'aimerais ça faire de quoi d'un peu plus sociable, parce que oui, t'as raison, la pêche, il y a le silence là-dedans, mais moi, pêcher tout seul, c'est rare que je fais ça. Là. Fait que je me suis trouvé des amis qui avaient cette passion-là aussi, fait que là, on s'est mis à pêcher un petit peu. quand j'ai un petit peu, c'est, mettons, 10-15 fois par été. Puis là, à un moment donné, c'est venu 20, 30, 40, 60. Okay. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu à 70-80 fois par année. Okay. Tu sais, sur 365 jours, là, ça commence à faire du stock, là, une fois par 4 jours ou à peu près.
C'est plus qu'un hobby, là, rendu là.
Oui, c'est une obsession. Là, ouais. c'est exagéré. Mais c'est pas grave, je vis très bien avec mon obsession.
Parfait.
Donc, je te dirais que ça a été mi-vingtaine là, que ça a vraiment, vraiment débloqué parce que j'avais beaucoup de bagages de chasse et pêche en forêt avec mes parents et tout ça. Toujours, toujours pour l'omble de Fontaine, parce que je viens d'une région où c'est ce poisson-là qui est le roi, je dirais, des rivières et des lacs autour de moi. Okay. Mais une fois que la passion a pris de l'ampleur, ben là, je me suis intéressé à pas mal tout ce qui nageait. Là.
OK. Parce que ben, tu dis aussi que, bon, oui, il y a beaucoup de populations en centre urbain au Québec. C'est notamment, c'est quasiment la moitié du Québec est dans la région de Montréal. Là.
Absolument.
Sauf que on tend à oublier que la majorité, c'est pas tout le monde qui est né à Montréal. Il y a une grande partie de la population de Montréal, que c'est du monde d'ailleurs, du monde. Moi, je dis souvent en joke, si je veux voir du monde du bas du fleuve, je vois soit à Montréal, soit à Place Laurier à Québec. Là. on est tous rendus ici. C'est du monde qui ont amené leur bagage avec eux. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'es rendu à Montréal, t'as oublié comment pêcher. Tu sais, fait, j'ai le feeling que c'est vraiment quelque chose qui se poursuit un peu. Puis, pour connaître des gens qui sont justement dans les grandes villes, eux, tu vois, ils cherchent la fin de semaine à se pousser pour justement s'évader puis aller pêcher tranquille dans des zones plus relax, justement, là. Fait, effectivement, j'ai le feeling qu'il y a vraiment, la pêche, c'est quelque chose qui est assez répandu au Québec. Puis là, ça m'amène à... On va faire peut-être un petit bloc là-dessus parce que tu collabores avec la revue Chasse et pêche. Là, j'ai plein de questions sur la pêche. On va jaser de ça après cette petite parenthèse-là parce que des petites questions, des moyennes questions aussi.
Ah, OK, c'est okay. Bon. Ben, une petite parenthèse pour Montréal. Oui, oui. Juste une petite parenthèse. On tend aussi à oublier que Montréal, c'est une île, là.
Oui,
c'est
ben
entouré
oui.
d'eau, puis de oui. la pêche urbaine à Montréal, il s'en fait. Il y a plein de personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller à des kilomètres au nord ou au sud. Ils vont faire de la pêche à gué, donc de la pêche à gué, c'est-à-dire les pieds sur le bord et on lance vers le large. Dans le fleuve Saint-Laurent, ses affluents, toutes les rivières autour, et il se prend du très, très beau poisson autour de Montréal. Honnêtement, même quelqu'un qui reste en plein centre-ville de Montréal, qui est la plus grosse ville du Québec, pourrait se faire de la pêche quasi quotidiennement.
OK. Justement, je voulais parler de la revue Chasse et pêche parce que tu collabores avec cette revue-là. J'aimerais ça savoir, ben, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à collaborer avec eux? Ça fait combien de temps que tu es dans cette organisation-là? Puis ton rôle à toi, c'est dans tout ça, c'est quoi?
je suis enseignant de français de formation, fait que... L'écriture, ça m'a toujours passionné, ce qui fait qu'à un moment donné, à force d'expérience de pêche, j'avais le goût de partager. L'écriture et le partage, c'est pas mal la base de l'enseignement. Puis ça, c'est mon travail de base. Donc, je me suis mis, là, assez longtemps, je dirais, là, milieu des années 2000, là, à avoir un blog sur Internet, un blog sur lequel j'écrivais plein de textes là, de mes expériences de pêche et tout ça. Ensuite, je me suis monté un petit site Internet sur la pêche au Québec en général, mais plutôt sur la pêche dans mon comté, parce que je viens du comté de Portneuf. Puis je voulais vraiment centraliser mes efforts là-dessus.
Okay.
Mais à force d'écrire sur Internet, je me suis mis à avoir le goût d'écrire plus professionnellement, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que... Je te dirais, fin 2016, dans ce coin-là, j'ai contacté le rédacteur en chef de l'époque de Sentier Chasse et Pêche, qui s'appelle Richard Monfait, qui... et là, j'ai dit, j'aimerais ça écrire pour votre magazine. Ben, OK, il dit parfait. Il dit, envoie-moi une suggestion de texte, des idées. Parfait. Fait que là, j'ai envoyé une suggestion d'idées. Il regarde ça, il dit... Moi, j'aimerais mieux avoir un plan de ton texte, là, me donner une idée de ce que tu veux écrire. Pas juste l'idée, là, mais comment tu vas le développer. J'y envoie le plan. OK, il dit parfait, je prends ton idée. Alors, je compose mon texte, je lui envoie, puis une fois qu'il l'a lu, il me dit, ben là, à partir de maintenant, je t'annonce que tu vas être collaborateur à la revue.
OK.
Donc, ça veut dire qu'une fois par année, je vais te contacter, je vais te demander de me donner des idées de texte, puis maintenant que j'ai vu comment tu écrivais, j'ai pas besoin d'avoir de plan à chaque fois.
Je vais
choisir l'idée que tu veux,
ouais.
l'idée que je veux plutôt, puis je vais la mettre dans Sentier Chasse-Pêche. Ce qui fait que mon premier texte a été publié dans la revue de juin-juillet 2017 de mémoire.
Okay.
Donc, comme 5-6 mois après.
OK.
Puis depuis ce temps-là, je suis collaborateur pêche à la revue. J'écris 6, 7, 8 textes par année sur la pêche.
OK. Fait que là, dans le fond, t'es rentré comme ça.
Oui, je suis rentré comme ça.
De ce que j'ai pu comprendre, t'as pris du galon un peu à l'intérieur de tout ça au fil des années. Maintenant, actuellement, ton travail, en plus de faire de la rédaction, ça ressemble à quoi pour la revue Sentier Chasse-Pêche?
Ben pour Sentier Chasse-Pêche, ce qui s'est passé, c'est que, je vais faire une petite historique rapide, là. C'est qu'en 2019, j'ai écrit un livre sur la pêche, puis le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça a comme allumé des gens qui voyaient que je collaborais à Sentier Chasse-Pêche, puis là, il y a eu un changement de garde à la revue, donc c'est-à-dire que les gens qui étaient en place sont partis pour X, Y raisons. Et là, j'étais chez moi à un moment donné, j'ai reçu un téléphone, on me demande si je suis intéressé à m'impliquer davantage dans le magazine. Alors, je dis, ben oui, c'est sûr. Après une petite entrevue, parle jase avec les gens de la direction, on m'offre un poste de rédacteur adjoint au magazine, ce que j'accepte avec grand plaisir. Donc, depuis... moi, j'ai commencé à travailler, je dirais, en décembre 2020, là, mais officiellement, ça s'est officialisé début 2021 là, que je suis rédacteur adjoint depuis ce temps-là à Sentier Chasse-Pêche. Rédacteur adjoint, l'adjoint du rédacteur en chef qui est Sylvain Lessard, parce que lui aussi, il est nouvellement arrivé. On est arrivés tous les deux en même temps.
OK. Là, ça m'amène aussi au fait que pour ce qui est de la revue, ben, les gens au Québec, là, je pense, tout le monde a déjà entendu parler de cette revue-là. Tout le monde l'a déjà vue en kiosque. Vous faites, si je me trompe pas, 12 parutions par année et vous faites 2 numéros spéciaux. Puis là, ben moi, en fait, c'est ça qui m'a allumé quand on s'est parlé. Parce que je me suis dit, vous sortez un nouvel exemplaire. Puis je me suis dit, je veux que tu viennes en parler parce qu'au Québec, mais pas juste au Québec, mais dans la scène métal, il y a une chose que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une espèce de, je dirais pas un retour à la terre, là. Il y a personne qui veut revenir fermier et tout, là. Sauf que il y a un retour à la chasse, la pêche. Je connais des groupes qui ont, qui mettent vraiment l'emphase là-dessus dans leur vie personnelle. Puis, tu sais, je salue Nordet de Brune d'Automne, d'ailleurs, qui est un des plus grands chasseurs, pêcheurs, cueilleurs que je connais, là. Puis, mais bref, c'est ça. Il y a un gros intérêt pour ça. Puis, vous avez sorti un nouvel... vous sortez, en tout cas, je ne sais pas s'il est sorti au moment où on tape, mais au moment où ça va sortir, ça va être paru en magasin, votre nouvelle édition, votre numéro spécial du printemps. Peux-tu m'en parler un peu plus?
Oui, au niveau du... Par rapport au métal, là, ça me fait penser, on dirait, à une anecdote que je ne sais pas si tu l'avais entendu quand Rammstein était venu au Festival d'été de Québec.
Non,
quand
non.
Ils ont fini le Festival d'été, la première affaire qu'ils ont fait, ils se sont dit « Hey, là, on est au Québec, on n'est pas juste ici pour faire notre show métal ». Ils sont partis dans le nord du Québec, ils sont partis d'un trip de pêche à la gang. Là.
Ah, donc, ouais.
Vraiment, vraiment. Oui,
ah, ça, ouais, OK.
Ça, c'est comme, effectivement, il y a comme une association que je ne peux m'expliquer, mais oui, une association entre les tripeux de métal puis la chasse, la pêche, etc. Pour te reprendre, tu as bien raison. 12 parutions par année, donc 10 revues mensuelles plus 2 revues spéciales, donc une revue qu'on appelle l'annuel de pêche et l'autre qu'on appelle l'annuel de chasse, pour un total de 12, comme tu as bien mentionné. L'annuel de pêche, présentement, au moment où on se parle, il est en train de se faire imprimer, il est sous presse.
Okay.
Il est terminé, il devrait sortir, j'ai le goût de dire, fin avril.
Okay.
Ça s'en vient d'ici une semaine ou deux. Là.
Parce que vous, dans le fond, vous timez ça, puis en même temps, c'est logique, là. La saison de pêche commence le printemps, saison de chasse à l'automne, vous sortez les deux parutions... dans ces moments-là. Peux-tu me dire un peu dans le contenu de l'édition de cette année, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu comme information? Qu'est-ce que ça vise comme public en termes d'information?
L'annuel de pêche, qui effectivement, tu as raison, on essaie de sortir autour du début des saisons de pêche. L'annuel de pêche, c'est un magazine... normal, je dirais, qu'on sort mensuellement. Ça a 80-85 pages dans ce coin-là.
Okay.
L'annuel de pêche, c'est plus autour de 130. Là. Donc,
okay. Il y a déjà... C'est un numéro spécial avec un bonus de page assez conséquent.
Il est plus volumineux, okay. Ça, c'est sûr et certain.
Okay.
Il y a toujours une section en partant qui est la section des nouveautés. Donc, l'équipe de rédaction s'est affairée à communiquer avec plein de compagnies de pêche qui font soit des éco-sondeurs, des cannes, des moulinets, des leurres, nommez-les. Et on a une section nouveautés là-dedans. Cette année, on présente plus de 120 nouveautés de pêche. Alors okay. Là, l'annuel de pêche, étant donné qu'il s'adresse vraiment aux maniaques, aux tripeux, ben cette partie nouveauté-là, c'est une partie qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on lit, on découvre un petit leurre nouveau, un petit item nouveau qu'on n'avait pas vu. La nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé de faire, dans la section nouveautés, les nouveautés sont classées par, comme je viens de dire, mettons, les leurres souples, les leurres durs, les moulinets, blablabla. Puis là, on a une section qui s'appelle Place aux jeunes.
OK.
On trouvait que les nouveaux pêcheurs, mais surtout la relève, les jeunes pêcheurs, il n'y avait pas de quoi se mettre sous la dent dans notre annuel. Puis, si on veut encourager la relève, ben il faut dire aux papas et aux mamans qui lisent l'annuel, que regardez, il existe des petites cannes télescopiques qui sont pas des petites cannes jouets nécessairement, ouais. Mais qui peuvent être de qualité pour vos enfants de 4, 5, 6 ans qui commencent ce loisir-là. Il y a même un petit coffre à pêche qu'on présente dans lequel il y a... une imitation de poisson qui a un certain poids avec lequel ils peuvent se pratiquer à lancer sur le terrain.
OK.
Tu sais qu'il n'y a pas d'hameçon, c'est pas dangereux.
Ouais, ouais.
Cette section-là a été pensée pour eux autres. Fait qu'il y a cette section-là qui est nouvelle dans l'annuel de cette année depuis que c'est la nouvelle équipe. C'est bon, ça. Après ça, il y a 10 articles de fond. D'habitude, dans une revue normale, tu as 9 articles de fond qui, mettons, moitié-moitié chasse-pêche, si on veut. Mais là, c'est 10 articles de fond que sur la pêche.
OK.
Par des sommités, là, des gens qui écrivent pour le magazine depuis longtemps, puis même des nouveaux venus aussi qu'on a cette année. Donc ça, c'est des articles très poussés sur ce loisir-là. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour les maniaques, là, c'est vraiment intéressant là-dessus. On va toujours en apprendre en lisant ces textes-là. Puis pour le reste de l'annuel, ben là, on a les dates d'ouverture des zones de pêche avec quelques règlements qui peuvent être quand même assez complexes au Québec. On a aussi une section sur les bonnes périodes de pêche, okay. Avec un calendrier, puis par rapport au, on a aussi une table des marées aussi, parce
oui,
que
oui.
Les marées, c'est un élément à considérer.
Ça a une influence aussi, là, oui.
C'est okay. Sûr qu'à partir de Trois-Rivières vers Montréal, des marées, il y en a peu ou plus du tout,
ouais.
Mais quand on est plus vers l'est, là, oh oui. Les marées, ça se tire.
Moi, je viens du bas du fleuve, puis tu le vois à l'œil, là. t'as la voix monter, là.
Ben, moi, je viens juste du comté de Portneuf, puis dans le temps des grandes marées, là, des fois, t'as une différence de 15, 16, 17 pieds entre le plus bas et le plus haut, là.
Ouais.
C'est quand même intense. Ça fait une grande différence à la pêche. Donc, et tout le reste de ce magazine-là, c'est des informations comme ça, là, que pour le pêcheur qui peut consulter à l'année longue.
OK. Là, pour ce qui est, en fait, de ce numéro-là, c'est en kiosque un peu partout. Vous allez, vous pouvez le commander, j'imagine, en ligne aussi. Y a-t-il un site pour la revue?
Oui, le numéro de l'annuel, si tu es abonné à Sentier Chasse et Pêche, c'est pas le numéro que tu vas recevoir, c'est un numéro qui est hors série, lui.
OK.
Fait que ce numéro-là, tu peux, si mettons, tu t'abonnes, tu peux le prendre en prime.
OK.
Tu peux dire, je m'abonne, puis au lieu d'avoir, mettons, une casquette ou un couteau, peu importe, mais je vais prendre la prime de l'annuel.
OK.
Tu peux l'acheter aussi en kiosque.
Okay. Hein?
Moi, c'est ce que je faisais à l'époque quand j'étais un lecteur assidu. Ben là, j'arrivais dans mon petit dépanneur du coin, puis je me procurais mon annuel de pêche. Ça, c'est une autre façon. Oui, il y a un site web où on peut s'abonner, où on peut effectivement faire des commandes de ça. C'est le site de Sentier Chasse et Pêche officiel. Là,
okay.
Très facile à trouver sur Internet.
Parfait. De toute façon, on mettra le lien avec nos réseaux sociaux. Là, comme ça, les auditeurs pourront trouver facilement. Et là, ça m'amène à mon bloc, le bloc pêche, mais en général. Donc, tantôt, tu parlais de la pêche à gué. Tu sais, il y a différents types de pêche. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, tu sais, de comment, c'est quoi les différences. C'est, bon, pêche en chaloupe, en haute mer, j'imagine que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes techniques. Puis côté équipement, ça peut ressembler à quoi? Tu sais, y a-tu un équipement spécial pour tel type de pêche ou à quoi ça peut ressembler pour quelqu'un qui connaît pas ça, mettons un néophyte comme moi là.
OK. Ça dépend à quel point que tu veux ratisser large au niveau de ta pêche. Parce que bien honnêtement, c'est un peu comme le golf. Tu peux pas tout faire avec un driver. Là.
Non, c'est ça, c'est ça.
Fait que à la pêche, tu peux pas tout faire avec une canne à pêche.
C'est ça, ça prend.
Ça se peut pas. Là. Tu peux pas aller prendre ta canne à truite ou en chaloupe où tu lances des leurres d'à peu près une demi-once pour pogner des truites de 8 à 12 pouces. Puis d'aller faire de la ligne morte au fleuve, puis de ferrer un esturgeon de 48 pouces qui pèse au-dessus de 20 livres, puis de penser que tu vas le ramener, puis tout va bien aller.
Ouais.
Tu peux pas. Fait qu'il faut vraiment s'équiper différemment, tout dépendamment des types de pêche que tu fais. La pêche à gué, il y en a deux types. Tu peux faire de la pêche à la ligne morte pour les poissons de fond, la pêche à la carpe, l'esturgeon, comme je viens de nommer, la barbue, ces choses-là. Mais tu peux aussi faire de la pêche au lancer à gué, parce que des fois, le poisson, comme le doré ou la chigan, se rapproche du bord. Puis si tu connais le bon moment et la bonne période, ben là, tu vas faire de la pêche au lancer. Déjà là, juste la pêche à gué, je viens de te nommer que ça te prend deux cannes différentes.
Oui, c'est ça. Tu parlais de bon la ligne morte, c'est quoi? Tu pitches à l'eau, tu laisses ça descendre, tu attends que ça morde, dans le fond?
Absolument.
C'est... OK.
Qui est la technique la plus utilisée, toute civilisation humaine confondue. Là.
Okay, OK.
Je veux dire, on met un appât vivant sur un hameçon, que ce soit un morceau de poisson mort ou un ver de terre ou n'importe quoi, puis on lance ça à l'eau puis on attend. On voit ça dans plein d'émissions de pêche où il y a plein de civilisations qui sont très, très reculées. En Amazonie ou même en Afrique, en Europe, partout, c'est la méthode la plus utilisée pour pêcher. C'est tu lances une ligne à l'eau avec de quoi qui pue, puis t'attends.
T'attends, ouais.
Ça, c'est une très bonne façon. Ça, si c'est la plus utilisée, c'est parce que c'est la plus simple, mais c'est aussi parce que, on va être honnête, c'est très efficace.
Là. OK. Fait que là, on parle, bon, la pêche à gué, c'est que t'es sur le bord de l'eau, tu lances ta ligne, tu pêches comme ça. Les autres types, là, évidemment, on a tellement de lacs au Québec. On a tous déjà été, en tout cas, si vous ne l'avez pas vécu, je vous le souhaite une fois dans votre vie, d'être une chaloupe tranquille, à aller pêcher justement, à faire un tour de lac puis lancer sa ligne. Outre ça, c'est quoi le genre de pêche qu'on peut... faire au Québec? Parce que je sais que la pêche à la mouche, souvent les gens qui vont sur... on entend souvent parler de la rivière Moisie dans le bout de cette île pour le saumon. C'est-tu encore cool et branché, ça, comme place ou comme type de pêche?
La pêche à la mouche, effectivement, il y a plusieurs adeptes de la pêche à la mouche au Québec. Elle se pratique encore énormément. Oui, c'est sûr que quand on entend pêche à la mouche, on dirait qu'on pense à pêche au saumon. C'est à ça qu'on pense,
c'est ça.
Pourtant, la plupart des poissons se prennent à la mouche. On peut prendre de la carpe à la mouche, du masquinongé, du brochet à la mouche, de la chigan, du doré même quand il vient un petit peu plus haut dans la colonne d'eau, plus près de la surface. La plupart des poissons se prennent à la mouche, ça c'est clair.
Okay.
Donc la pêche à la mouche, on peut faire ça dans une chaloupe, on peut faire ça à gué sous le bord, on peut faire ça en bas de pantalon dans la rivière. Mm-hmm. Ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est que quand on est dans l'eau, là, on dirait qu'on fait comme un avec la nature, puis c'est vraiment trippant. Là,
ouais.
Donc ça, avec ça aussi, c'est un équipement différent, parce que quand tu vas dans la rivière, ça te prend des bas de pantalon qui montent jusque...
Ouais, c'est quand même impressionnant. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je voyais mon père avec ça, je me disais, mais quelle espèce de saut bizarre pour aller pêcher. Mais effectivement, ça te permet d'aller un peu aussi plus loin, plus creux. Absolument.
Parce que la pêche, c'est sûr que l'été, là, il y en a qui se cassent pas la tête, l'eau n'est pas pire chaude, c'est pas grave, on va aller en costume de bain, on va se mettre des crocs dans les pieds puis on avance dans la rivière. C'est vrai, il n'y a pas de trouble.
Ouais.
Mais le printemps puis l'automne, la pêche à la mouche, ça se fait, là. Puis l'eau, je vous annonce que vous allez la trouver froide avec votre petit costume de bain fleuri, là. Ça va être intense, là. Fait qu'effectivement, il y a certaines bottes de pantalon qui se vendent, qui sont en néoprène, qui vraiment sont là pour protéger son utilisateur de la froideur de l'eau. Hein, tu sais.
Okay.
Donc, pêche à la mouche, en rivière, à gué. Tu m'as nommé la pêche en chaloupe. Bien sûr, tout le monde la connaît. Mais moi, quand je pêche en chaloupe, je fais très peu de traîne. On dirait que moi, la pêche en chaloupe, je vois des oncles assis avec la main sur le moteur.
Ouais, une bière entre les pattes.
Sinon, on a le même cliché, puis on sait même pas parler.
Ouais.
Qui font pout-pout-pout avec leur moteur. C'est une façon, puis c'est correct, ça fonctionne, la pêche à la traîne.
Ouais.
Mais moi, la traîne, j'en fais pour me déplacer d'un endroit propice à un autre endroit propice.
OK. Quand tout d'un coup, qu'il y avait quelque chose entre les deux.
Effectivement, pour qu'il y ait toujours de quoi à l'eau.
Ouais, ouais.
Mais quand j'arrive à mon endroit, que j'ai l'air d'une zone que je me dis, je pense qu'il va y avoir du poisson là, là, je vais la quadriller de toutes les façons possibles et imaginables. Okay. Quand j'ai fini, je prends ma deuxième canne, je mets mon petit leurre à la traîne, puis je m'en vais vers mon autre endroit. Rendu là, si j'en pogne un en y allant, tant mieux. Mais moi, traîner à journée longue, c'est pas quelque chose que je fais. Par contre, malheureusement, il y a quand même des poissons que c'est la façon de faire.
De les prendre,
OK. La façon de les prendre, on n'a pas le choix. La wananiche, la traîne, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Okay. La grise aussi, ça peut être un poisson qui se prend qui est plus à la traîne, même si quand tu as un bon éco-sondeur, tu peux quand même le prendre à la dandinette verticale. Mais bien honnêtement, effectivement, la traîne, c'est une façon de faire. Là, tu m'as parlé aussi de la pêche en haute mer. Bien, on en a au Québec, même si moi, mes expériences de pêche en haute mer ont été plus aux États-Unis. On en a au Québec, en Gaspésie, il y a des voyages de pêche au thon qui s'organisent, là, des genres de des thons, là, pas des... Pas
ah non, de 50 livres, là. C'est des ça, un vrai.
Des 600 livres, là. Des ça. Monstres. Là.
Des un peu pour ceux qui ont lu Hemingway, Le vieil homme et la mer, là, des genres de bêtes du genre.
Des genres, oui, ces bêtes-là. De mémoire, c'est un marlin là-dedans. Là, avec un,
oui, oui, ben, c'est un espadon.
Ça, ou un espadon.
Un espadon, ouais, espadon en tout cas. Ça, oui. Bref, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ils perdent une main à la fin puis tout. Là.
C'est fun.
Non, mais tu sais, écoute, ça, c'est sorti, ça fait 50 ans. Là. J'ai aucune prétention de faire un spoiler là-dessus. Non, là.
Mais oui. Il y a aussi la pêche au bord rayé. Dans le coin de la Gaspésie, qui est rendue ouverte parce que le barré, c'était une espèce qui était disparue du Saint-Laurent, qui était réintroduite. Donc, il y a ça aussi. Donc, oui, on a la pêche en mer au Québec, la pêche en rivière, en lac, à gué. On est chanceux. Je connais plein de personnes qui viennent des États-Unis en pourvoirie pour pêcher ici à cause de la réputation, de la qualité de pêche qu'on a. Je connais même des gens qui viennent d'Europe, qui viennent ici au Canada, qui deviennent citoyens canadiens, puis ce qui les attirait à la base, c'est nos grands espaces verts, c'est la pêche, la chasse, les étendues d'eau, l'espace. Donc, on est chanceux d'avoir ça ici.
OK. Tu as dit quelque chose qui a comme accroché mon oreille de gars qui ne connaît pas ça. Tu disais, quand je trouve un spot, je vais quadriller mon lac. Je comprends le principe de quadriller ton lac, mais comment tu fais ça? Dans le fond, c'est quoi la technique pour... J'imagine spotter ou est-ce qu'il y a des fosses ou des poissons ou quelque chose du genre? Ou...
D'habitude, ça dépend comment tu es équipé. Mais d'habitude, quand tu pêches en chaloupe, je pense à la base. La base de ce que la majorité des pêcheurs québécois font, c'est qu'ils se rendent dans un endroit poissonneux, que ce soit une pourvoirie, une zec, une réserve faunique, peu importe. Et la chaloupe est fournie par l'endroit où ils vont. Puis souvent, c'est l'ombre de fontaine qui est le poisson le plus pêché.
Okay.
Par la majorité des Québécois, suivi de très près par le doré, je dois dire. Puis c'est pour la qualité de leur chair à la base.
Okay.
Donc, quadriller, ça dépend, comme je disais, de l'équipement que tu as. Mais admettons que tu es un pêcheur qui ne va pas là souvent, puis que tu n'as pas quelqu'un qui est équipé d'un gros sonore portatif puis d'un gros bateau. Donc, tu n'as pas d'équipement, tu es très minimaliste, tu as ta canne avec quelques petits leurres. Mais la première chose qu'on devrait faire, c'est de chercher les poissons actifs.
Okay.
Donc, on commence à quadriller plus dans les premiers pieds de la colonne d'eau, pas très en profondeur. Puis on ramène le leurre de façon assez régulière et assez rapide.
Okay.
Donc, s'il y a un poisson actif qui va être là, t'as pas besoin, il a faim, lui-là.
Il va y aller, il va
t'as
aller.
T'as pas besoin d'être méga subtil, tout ça. Tu lances, tu ramènes rapide, puis boum, tu vas pogner les 4-5 actifs qu'il y a là.
Okay.
Mais une fois que tu les as attrapés, il y en a peut-être d'autres.
Là. Ouais, ouais.
Là, tu regardes avec. Moi, j'utilise des lunettes polarisées, ce qui fait que ça empêche la surface de l'eau d'avoir les reflets du soleil. Donc, je peux voir en profondeur assez clairement.
Okay.
Et là, tu te rends compte que, mettons, il y a une cabane de castor, puis près de la cabane de castor, il y a une sorte de cassure qui descend dans les profondeurs. Bon, une cassure. Je ne commencerai pas à lancer ma cuillère avec mon hameçon, mon verre sans arrêt au-dessus de ça. Il faut que j'aie plus creux. Fait qu'il y a plusieurs façons. Soit tu lances, puis tu comptes jusqu'à 6, 7, tu laisses ta cuillère descendre, et là, tu ramènes tranquillement. Soit tu fais, encore une fois, de la ligne morte. Tu mets un petit plomb, un hameçon vers de terre, tu le laisses descendre. Puis tu regardes s'il n'y en a pas un qui est moins actif, que là, lui, il est moins actif dans le sens qu'il n'ira pas en chasse. Mais si tu lances...
Que s'il mène avant de la face, il va vouloir goûter. Là. Oui, je comprends.
Il va y aller quand même.
Okay.
Donc, quadriller un secteur, c'est regarder les structures, lancer vers toutes les structures, les coins d'ombre, les profondeurs.
Okay.
Peut-être qu'il y a un rocher dans le fond de l'eau que tu n'avais pas vu, mais quand mettant tes lunettes, tu vois. Il y a peut-être aussi un petit plateau en profondeur qu'on ne voyait pas, le contour de ça. Donc, quand tu as quadrillé ton spot, tu as passé un 15-20 minutes vraiment à travailler de plein de façons différentes. C'est assez.
Okay.
Là, tu passes à l'autre.
OK. Fait que dans le fond, avec ça, tu sais à peu près où, tu sais, dans ce spot-là, j'ai des chances d'avoir de quoi. Dans ce spot-là, je ne perds pas mon temps-là, puis tu continues ton exploration.
Absolument. Puis ton premier spot, le premier que tu cadrerais comme ça va te donner des indications. Admettons qu'il n'y a aucun poisson actif dans les 5 premières minutes quand tu pêches en surface. Tu te rends compte qu'ils sont tous dans 20 pieds d'eau, puis c'est juste la ligne morte qui morde. Mais à partir de là, le lac t'a parlé, là, la nature elle t'a dit quelque chose.
Ouais.
Là, tu devrais dire, OK, bon, là, je vais aller chercher dans des fosses d'une vingtaine de pieds d'eau, puis on va aller chercher à la ligne morte tranquille, ça va être ça aujourd'hui.
OK.
Tu sais, il faut que tu réagisses toi-même à ce que la nature te dit. Là.
Effectivement. OK. Là, dans le fond, mon autre question est par rapport au fait que ça fait plusieurs, justement, des espèces de poissons que tu nous parles. Peux-tu nous faire, évidemment, là, ça ne sera pas exhaustif, là, mais les espèces de poissons, les variétés qu'on peut trouver au Québec, ça ressemble à quoi dans... Tu sais, il y a les communes, puis mettons... Tu sais, en tout cas, nous, les pêcheurs de base, genre comme mon père qui m'a appris et tout, c'est de la truite souvent qu'on va... je ne sais même pas si c'est de la vraie truite, là, mais bref, tu vas pêcher de la truite dans des rivières, des lacs. Quand tu tombes avec un peu plus de défis ou tu as plus de skills comme pêcheur, j'imagine que tu vas te chercher des poissons un peu plus... qui donnent plus, justement, de défis, des poissons plus durs à attraper. Ça ressemble à quoi, la faune... aquatique au Québec, qu'est-ce qu'on peut pêcher?
C'est drôle que tu parles de défis parce que c'est de cette façon-là que j'ai écrit mon livre qui s'appelle « La pêche au Québec, là, guide d'initiation » parce que j'ai voulu exploiter les espèces qui sont faciles à pêcher, qu'il n'y a pas de gros défis en partant.
Okay.
Donc moi aussi, on dirait que j'ai classé par défi ces espèces-là.
Oh, ben en tout cas, moi c'est un peu... ça m'a marqué mon imaginaire. Puis tu sais, je parlais des Mingouins tantôt, quand j'ai lu ce livre-là, tu sais, c'est un vieux marin qui lutte avec un poisson tout le livre, puis son seul défi, c'est ramener le poisson. Puis en tant que pas pêcheur professionnel, il y a plein de fois que je me suis dit, mais pourquoi tu coupes pas la ligne à l'eau, puis tu sacques pas ton camp, tu sais, il est en train de gagner, puis ça finit là. Mais au final, je comprends que le défi de la personne qui dit, OK, garde, je vais le sortir, celui-là, tu sais. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a cette... ces capacités-là ou cet objectif-là. Là. J'imagine que, tu sais, c'est ça, quelqu'un comme toi, que ça fait longtemps qu'il fait ça, oui, t'as mis l'accent pour l'initiation pour ton livre, sauf que il y a sûrement des poissons que toi, t'as en tête que t'aimerais ça un moment donné aller essayer du moins d'en pêcher une fois dans ta vie. Là.
Ben, je vais répondre à ta question pour le Québec.
Oui, oui.
Et oui, effectivement, je vais y aller dans mes rêves après ça. Mais on va commencer par le Québec. Je te dirais, on va y aller par famille, mm-hmm. omble et truite.
Okay.
Donc, tout ça, c'est des familles différentes. Là.
Okay.
C'est des familles différentes, mais quand même, c'est des poissons qui se ressemblent.
Okay.
Donc, omble de fontaine, truite arc-en-ciel, pour moi, c'est des poissons qui sont accessibles.
Okay.
Plutôt faciles. La grise, la truite grise... ça, c'est un poisson qui présente un défi supplémentaire, selon moi. Surtout pour... Là, je parle de la pêche au sud du Québec, où ce qu'on est. Parce que si je m'en vais dans le nord du Québec...
c'est totalement d'autres choses, j'imagine.
C'est quand même assez facile de prendre du touladi, là, qui est la truite grise. C'est facile.
Okay.
Parce qu'ici, elle se tient vraiment en profondeur, fait que ça prend l'équipement particulier, ça prend des leurres particuliers, des techniques particulières pour s'y rendre. Donc, je vous dirais que là, au niveau omble et truite, là, il y a la brune aussi, la truite brune, qui est une truite très difficile à attraper.
OK.
Pour moi, un bon pêcheur de truite brune, c'est un bon pêcheur tout court.
C'est vraiment un poisson
qui est effarouché facilement, qui est quand même difficile à prendre. Donc, truite et omble, ça ressemble à ça.
OK.
Il y a la famille des ésocidés. Les ésocidés, c'est les brochets.
OK.
Et le masquinongé, même famille. Brochet beaucoup plus accessible que le masquinongé, selon moi.
Mm-hmm.
Qui se pêche plus facilement et plus agressif. Tandis que le masquinongé, tu sais, une journée que tu sors 15-20 brochets, ça peut arriver.
Mm-hmm.
15-20 masquinongés, ça peut te prendre ton année. Tu sais, c'est
OK, à ce point-là.
Vraiment, oh oui.
Y a-t-il une répartition sur. Tu sais, mettons, chez du brochet au lac Saint-Jean, tu peux pêcher ça quand même relativement facilement. Mettons, ici, j'entends moins souvent parler du fait que les gens pêchent du brochet. Y a-t-il une répartition spécifique ou...
Mais je dirais que le brochet, il est vraiment partout au Québec, mais c'est sûr qu'il y a des concentrations dans certaines zones plus grandes que d'autres, ça, je suis d'accord. Mais si on regarde l'aire de répartition du brochet, je pense que c'est le poisson qui en a le plus partout.
Okay.
Il y en a dans le grand nord du Québec, très, très loin. Il y en a dans le sud ici, il y en a aux États-Unis, il y en a partout du brochet.
Okay, okay.
Tandis que le masquinongé, oups, c'est différent.
C'est plus niché l'air de un peu comme place.
Beaucoup plus niché, plus difficile à prendre.
Okay.
Tu sais, quand tu vas au masquinongé, tu peux te dire, ça se peut que je revienne bredouille, puis c'est pas parce que je suis pas bon.
Okay? Ouais, 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 c'est ça. Ben là, dans le fond, on peut dire que tu y vas quasiment un peu aussi, il y a une partie de défi, là.
Exactement. En allant chercher ça. Fait que c'est pour ça que quand je pense à défi, je pense à oui, grise pour les ombres, les truites, mais je pense à masquinongé pour les ésocidés. Ensuite, tu as la famille des achigans.
OK.
Achigan grande bouche, achigan petite bouche et autres poissons qui rentrent là-dedans. Qui, livre pour livre, l'achigan petite bouche, c'est le plus combatif des poissons d'eau douce, très puissant. Et l'achigan grande bouche, on en a plus. Ça commence plus dans le coin de Sorel et vers l'ouest, vers le sud-ouest. Et c'est plus un poisson d'eau chaude, je dirais, que l'achigan à petite bouche, qui, lui, a une heure de répartition un petit peu plus
grande. C'est-tu parce que c'est plus des poissons qu'on peut trouver dans un grand lac que dans le fleuve? Ou
Les achigans à petite bouche, je sais qu'il y en a dans les grands lacs.
OK.
Grande bouche, là, tu vas retrouver dans une eau peu profonde, en dessous des nénuphars, dans une eau là qui n'a pas tant d'oxygène que ça, une eau qui est... Okay. Qui est plus chaude, honnêtement. Il tolère beaucoup plus les chaleurs, d'ailleurs.
Okay.
Puis il y a beaucoup de tournois de pêche aux États-Unis là, sur l'achigan à grande bouche.
Okay.
Puis si je pense à d'autres familles de poissons, je dirais, j'ai goût d'aller, c'est pas une famille, c'est juste un endroit où ils sont. J'ai goût d'aller dans les poissons de fond.
Oui, OK.
Qui sont pas tous dans la même famille du tout, mais que... Ils sont au
mais
même
qui ont
endroit.
Le même environnement un peu. Absolument. Là. Ça évolue dans le même écosystème.
Tu sais, j'en ai parlé tantôt, les sturgeons, la barbue, la carpe, qui sont des poissons que j'adore pêcher parce qu'ils viennent à des grosseurs qui n'ont pas de bon sens.
Ouais, ouais.
Une truite de 400 livres, un homme de fontaine de 400 livres, t'es un champion si t'attrapes ça une fois dans ta vie. Là. Mais un esturgeon de 400 livres, c'est un menu frappin, c'est tout petit. Ça vaut rien, ça.
OK.
Tu sais, tu peux pogner une carpe de 40-50 livres, là, des esturgeons de 20 livres, des barbus de 10-15. Tu sais, ça se coule la perche pour ne pas...
Ben oui, c'est sûr. À 15-20 livres, j'imagine que ça te prend une ligne qui est plus résistante, une canne qui, j'imagine, est aussi plus...
Ça prend l'équipement à conséquence. Okay. C'est sûr. Un moulinet qui contient beaucoup de fil parce que des fois, la carpe, elle peut faire elle peut partir en ligne droite là, tellement longtemps que si t'as pas un moulinet qui a beaucoup de fil dedans,
tu vas en manquer.
Tu vas en manquer puis c'est fini, tu viens de perdre ton poisson. Puisqu'on, la dernière chose qu'on veut, c'est de laisser un hameçon avec du fil traîné dans le fond de l'eau ou bien au-dessus du bord de la bouche d'un poisson. Hein. C'est pas pour ça qu'on pêche d'habitude.
Ouais, ouais. Ben, tu vois, ça m'amène à ma prochaine question. Comment ça peut coûter un équipement de pêche, puis là, je sais qu'il y a plein, tu sais, comme n'importe quoi, là, t'as des guitares, moi j'appelle ça du bois d'allumage, des guitares à 200$, puis t'as des guitares à 2000$. Fait que, mettons, je te demanderais peut-être de faire un petit parallèle vite pour le débutant qui part avec, tu sais, le padawan qui a rien, là, qui veut aller s'acheter un kit, qui veut commencer à pêcher, qu'est-ce que ça prend, puis comment ça peut coûter à peu près un kit, puis quand tu deviens level intermédiaire, c'est quoi le premier morceau que tu sacs au vidange de ton kit de départ puis que tu achètes de la meilleure qualité, mettons? Qu'est-ce qui peut te donner une chance de devenir, ben pas devenir meilleur pêcheur, mais de donner des chances de ton côté d'avoir des meilleures prises, mettons?
Parfait. Premier volet de ta question. L'équipement de base quand tu commences puis que tu connais pas ça. Mais c'est sûr qu'une canne, quand tu prends la canne en magasin puis tu la regardes, Il y a toujours des petites inscriptions là, proches du siège du moulinet, donc de l'endroit où on met le moulinet, puis il est écrit la puissance, l'action, etc. Une canne de puissance moyenne, tu peux attraper des truites, tu peux attraper des achigans, tu peux attraper des brochets de taille raisonnable, même des masquinongés, ben non, peut-être pas des masquinongés, des brochets de taille raisonnable, tu sais, le doré aussi, tu peux l'attraper avec ça. Donc, une canne moyenne d'à peu près 6 pieds et demi, 7 pieds dans cette longueur-là. En deux pièces, ça serait bien parce que au Québec, des cannes de 7 pieds dans une pièce, dans ton auto, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas trop de place tant que ça.
Ouais, ouais.
Là, ça va plier puis c'est jamais si beau à voir que ça. Là. Avec un moulinet et qui va être rempli soit d'un monofilament de 6-8 livres ou soit d'un fil tressé avec un bas de ligne à fluorocarbone. Si tu fais ça, je te dirais que avec ta canne, ton moulinet puis ton fil, les trois items ensemble additionnés, tu peux t'en sortir pour une centaine de dollars, 75-100 piastres. Puis là, tu peux attraper à peu près, tu sais, comme je disais, doré, achigan, truite, brochet, la base. Tu peux 6, 7, 8 espèces de poissons de base.
Okay.
À partir du moment où, là, comme deuxième volet de ta question, là, on va plus dans la précision puis qu'est-ce qu'on devrait changer pour avoir vraiment plus de chances de capturer des prises. Mais bien honnêtement, comme je disais, canne, moulinet, puis fil.
C'est un peu tes trois morceaux de base.
Les trois morceaux de base, mais personnellement, la canne suivie de très près par le fil, c'est les deux éléments encore plus importants.
Okay.
C'est sûr que le moulinet va être important avec un très bon frein quand on prend des grandes, des grosses prises, ou un moulinet avec une grosse bobine quand on a besoin de beaucoup de fil. Ça, je suis d'accord avec ça. Aucun problème là-dessus.
Okay.
Mais la plupart des pêcheurs, j'ai l'impression, ils regardent le moulinet à magasin, un moulinet 150, 200, 250, 300, puis ils capotent. Tu sais, tu fais tourner la manivelle, c'est super doux, c'est génial, mais ça te permettra pas de capturer plus de poissons.
Ouais.
Tandis que ta canne, si elle est plus de qualité puis plus sensible, tu vas sentir les morsures plus rapidement.
Okay.
Puis tu vas pouvoir faire un ferrage adéquat. Si ton fil il est plus fin, de meilleure qualité, puis qu'il endure plus le fait de se cogner ses roches, puis qu'il est plus invisible, ben tu vas encore une fois capturer plus de poissons. Moi, j'ai vu de nombre de fois des gens avec qui je pêchais dans le même spot à 5 pieds de distance, puis que la personne qui capturait le plus de poissons, c'est celle qui avait un fil plus fin, qui avait un fil, un meilleur fil, tu sais, plus subtil. Le nombre de fois que j'ai vu ça, je le compte plus. Hein. Fait que c'est sûr que moi, le fil puis la canne, ça vient avant le moulinet. C'est là que je l'investirais si j'avais investi.
Parce que ben souvent, moi, ce que j'ai remarqué, du moins de mes voyages de pêche avec mon père quand j'étais plus jeune, c'est que oui, tu sais, le gars le plus expérimenté, c'est lui qui en sortait le plus. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, sa canne à pêche, elle vaut plus que mes fringues que j'ai sur le dos, là, tu sais. Fait qu'au final, tu te dis, OK, tu sais, il y a l'équipement qui va avec le talent. Oui, le gars, il a le talent, mais il y a aussi l'équipement qui fait, qui va donner un coup de pouce aussi, là. Fait que dans le fond, ces trois morceaux-là, le morceau de base, ça serait, ou du moins la canne, le fil, ça serait vraiment les premières affaires à vérifier, mettons.
Ah, vraiment.
OK. Et
investir un peu plus, parce que, tu sais, les fils, on s'entend, là, investir plus dans le fil. Un fil tressé, c'est un fil tressé. Il y en a plusieurs sortes, il y en a plusieurs qualités, je suis d'accord. Mais c'est rare que le prix du fil tressé le moins cher, puis le prix du fil tressé le plus cher, ça a une variation qui n'a pas de bon sens. Tandis qu'au niveau de la canne à pêche,
c'est
des canne à pêche à 25, t'as des canne à pêche à 450. Là, tu parles d'une variation qui est intense.
Ouais.
Le fil à pêche, c'est plus de tenir compte d'où on est, puis de prendre le bon, le plus petit diamètre possible.
Okay.
Pour le poisson qu'on pêche, pour la subtilité surtout. Là.
Okay.
Puis la canne, par exemple, là, on peut exagérer au niveau du prix là, si on veut vraiment y aller là-dedans.
OK. Puis là, ça m'amène aussi au fait qu'au Québec, on a parlé tantôt, il y a plein de lacs, il y a aussi des ZEC, là, des zones protégées, je ne sais pas le nom exact.
Zones d'exploitation contrôlées.
Bon, qui sont en fait des zones protégées où est-ce qu'on peut aller pêcher, mais que c'est surveillé ou c'est... Puis c'est bien correct comme ça, là. Je veux dire, ça évite le... On peut-tu parler de braconnage en termes
absolument,
de pêche?
Oui. Oui,
bon. Ça évite la surexploitation, disons-le comme ça. Puis je me rappelle que mon père me disait, quand on était jeune, puis qu'on allait faire des voyages de pêche comme ça, « Ah, je sais pas sur quel lac on va, je sais pas si on a été tiré, si on a gagné, tu sais, si on a gagné notre place. » Là, ça m'amène à ma question de comment qu'on fait pour faire partie du tirage, tu sais, quand on veut... mettons, postuler pour aller pêcher sur un lac. Puis, c'est quoi la démarche pour faire ça? Puis, comment ça a un coût, là, tout ça? Comment qu'il faut prévoir à peu près, si, mettons, vous êtes 4-5 personnes qui voulaient aller faire un trip de pêche, la démarche, ça ressemble à quoi? Puis, ça va m'amener à mon autre question après de le tourisme en termes de chasse et pêche au Québec, ça ressemble à quoi? Fait qu'on va y aller avec les places, là, comment qu'on fait pour avoir une place, si on veut... pêcher sur un lac en particulier, mettons, au Québec?
OK. Méchante question. On va parler. J'ai pas le choix de parler des différents types de territoires pour répondre à ta question. J'ai pas le choix.
OK.
Je vais commencer par parler des ZEC, parce que c'est ça que tu as mentionné dans ta question, zone d'exploitation contrôlée. Oui, on peut louer des embarcations dans ces territoires-là. Oui, on peut louer des moteurs, tout ça. Mais d'habitude, une ZEC, c'est pour le gars qui est un peu équipé, qui amène sa propre chaloupe, son propre stock, son propre moteur, puis qui peut aller sur le territoire. L'avantage de la ZEC, c'est que le coût est quand même peu élevé si tu as ton stock, bien sûr, si tu as ta chaloupe, je te parle. Moi, quand je vais sur une ZEC, j'ai ma chaloupe de 12 pieds en aluminium, j'ai mon moteur électrique, j'ai mon moteur à essence.
Tout est prêt à pêcher.
Tout est prêt.
Tu arrives là, tu sacs ça à l'eau, tu es prêt.
Tout est prêt. Moi, j'arrive à l'accueil, je paye mon droit d'entrée, tu as un droit d'entrée par pêcheur, puis après ça, tu as un autre droit d'accès pour les chemins, parce qu'il faut qu'ils en prennent soin de ces chemins-là, fait qu'avec l'argent qu'on leur donne,
ils entretiennent
tout ça, oui, absolument.
Puis souvent, tu sais, c'est dans des zones reculées, Tu sais, tu fais une heure sur une route de terre, c'est normal aussi que tu sais, faut que tu aies de l'entretien aussi de base. Là.
Fait que là, tu leur dis le premier lac où tu veux aller.
OK.
Puis après ça, ils disent « bye ». C'est très, très, très autonome comme territoire, la ZEC.
OK.
Pour à peu près 30$ par pêcheur, là, grosso modo, okay. je dirais, là, c'est pas cher, honnêtement. Là. Mais tu sais, on s'entend. Je viens de dire que j'ai mon stock. Ma chaloupe, elle m'a toujours bien coûté 2500$.
Non, non, c'est
mon
ça.
Mon moteur, bon. OK. Mais une fois que tu es équipé, pour 30$, pour pêcher pour une journée, un, l'avantage de la ZEC, c'est que c'est pas cher. Deuxièmement, c'est que tu peux te promener d'un lac à l'autre dans ta journée sans avoir à demander la permission. T'as okay. pas « aujourd'hui, je te donne un papier, tu vas à telle place ». Non. La ZEC, tu leur dis où t'as pêché en premier, puis bye.
T'as accès au territoire,
oui.
at large, puis rendu là, tu t'organises par toi-même.
Fait que si ton quota, c'est, mettons, 10 truites dans ton territoire, dans ta ZEC, mais quand t'as fini, tu reviens au bureau d'accueil, tu dis ben j'ai pêché ces 5-là sur tel lac, puis ces 5 autres-là sur tel autre lac.
OK.
Là, tu l'enregistres, etc., puis bonne journée.
OK.
J'aime l'autonomie des ZEC, j'aime ça. Tu peux marcher, tu peux faire du 4 roues là-dedans, il y a des places de camping aussi. Puis okay. souvent, il y a plusieurs espèces de poissons sur un même territoire, c'est des grands territoires, c'est vraiment le fun.
OK.
Fait que ça, c'est les ZEC.
OK.
Ton autre référence que à laquelle tu as fait référence dans ta question, c'est le tirage au sort, tout ça.
Oui.
Ça, tu devais parler des réserves phoniques. Les réserves phoniques
oui.
qui sont gouvernementales,
oui.
gérées par la CEPAC en général, parce qu'il y en a une réserve phonique au Québec qui est gérée par un OSBL, c'est la réserve phonique Duchesnier dans le coin de Rimouski.
Exact.
Mais toutes les autres,
ben, c'est moi, tu vois, c'est là. Ben, moi, je viens de là, fait que c'est... Mon référent, il est là.
OK, d'accord. Ouais. Toutes les autres réserves phoniques, c'est géré par le gouvernement, la CEPAC.
OK.
Le temps du tirage au sort, il a été révolu, là, peut-être une dizaine d'années.
OK. Mais sans... Tu vois, je ne suis pas un grand pêcheur assidu.
Ah, mais c'est correct. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit que là, on ne fait plus de tirage au sort. C'est davantage. Tu donnes ton nom, tu réserves ta date, puis c'est disponible, on te prend, tu viendras.
OK.
Rendu sur place, tu as souvent un plan de pêche, c'est-à-dire que. Les gens qui habitent pendant les 3-4 journées-là le chalet X, ben le lundi, ils ont le droit entre le lac A puis le lac B. Le mardi, ils peuvent okay. faire le lac C puis le lac D. Puis le mercredi, le lac E puis le lac F.
Okay.
Souvent, c'est ça.
Okay.
Les réserves phoniques, tu ne peux pas te promener d'un lac à l'autre.
Ouais, ouais, t'es assigné
t'es
à une place.
À un lac, oui.
Si ça ne mord pas, just too bad pour toi cette bon, fois-là.
Souvent, comme je viens de dire, c'est pour ça que j'ai donné, des fois, tu as des choix.
Okay.
Des fois, tu peux prendre, mettons, le lac en avant de ton chalet plus un autre ailleurs ouais. dans la réserve phonique.
Okay.
Mais ça va être des chaloupes différentes.
Okay.
Tu vas traîner ton moteur, tout simplement.
Okay.
Ça se fait, tu peux aller là en pêche à la journée ou tu peux aller là en pêche en séjour. Tandis okay. que les ZEC, oui, les ZEC, des fois, ils offrent de l'hébergement, mais c'est plus pour des pêches à la journée quand okay. tu n'as pas de chalet, c'est à la ZEC.
Okay.
Tandis que quand tu vas dans une réserve phonique, les chalets ne t'appartiennent pas, là, ils appartiennent à la CEPAC.
Ouais, ouais.
Fait que tu as des lacs qui sont exclusivement réservés à la pêche à la journée, puis tu as des lacs exclusivement réservés à ceux qui réservent en chalet. Puis je te dirais que pour une pêche à la journée à CEPAC, c'est peut-être là, on monte peut-être à 65, à peu près.
OK.
Puis si tu veux faire des séjours avec droit de pêche, mettons, si tu dois autour de 100, 110, 120 par jour dans ce coin-là.
Okay.
Mais là, tu as ton chalet, tu as tout ça.
Okay. Okay.
Et là, je parle de plan européen dans le sens que tu fournis ta propre bouffe. Là.
Oh, oui, tu arrives avec ton épicerie, puis tes affaires, puis tu t'organises. Puis moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est comme tu pêches, tu manges du poisson si t'en pêches, puis tu sais, si t'en pêches pas, ça te prend un petit backup. Là.
Le spaghetti ou la sandwich au jambon.
Mais c'est ça. Je me souviens de mon père qui met pas grand chose dans le couleur en se disant on n'aura pas le choix de pêcher.
Ouais, 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 c'est ça.
On va se mettre le défi, en fait. Là.
Puis okay. Les deux autres territoires, il en reste
oui,
deux,
oui.
les pourvoiries. Les territoires
oui.
libres.
OK.
Les pourvoiries, ça, c'est plus, c'est privé d'habitude. C'est géré par une entreprise privée. Donc, c'est quelqu'un, mettons, qui a acheté un gros secteur de je ne sais pas combien de kilomètres carrés, puis il exploite ce secteur-là.
OK.
Il peut ensemencer sa truite, il peut. Ou, à la limite, c'est un territoire plus brochet doré, ben là, il ensemence pas, mais tu sais, des fois, il se met des règlements lui-même de remise à l'eau pour garder la ressource qui va toujours être renouvelable. Donc, okay. pourvoiries, au niveau des prix, bien honnêtement, ça ressemble beaucoup à la CEPAC, là, la plupart. Là.
Okay.
OK. Mais encore une fois, c'est en plan européen. Si tu vas en plan américain, qu'il y a quelqu'un qui te fait ta bouffe, puis que là, t'as un cuisinier qui travaille pour toi, là, on monte de
ça
prix,
se paye,
c'est normal.
Là.
Ça se paye tout ça.
Ouais.
Et okay. t'as le territoire libre, qui en a de moins en moins, mais c'est la réalité. Territoire libre, moi, quand je m'en vais pêcher à Gué, comme je disais tantôt, les pieds sur le bord du fleuve, puis que je lance une ligne à l'eau, je pêche, je paye rien à personne.
Ouais.
Je veux dire.
Ou une rivière. Ou
absolument.
Ça, il y en a tellement au Québec rendu là. T'sais, n'importe qui est en région, il y a une rivière à quelque part facile d'accès, là, j'imagine.
Ça, je suis d'accord. En région, plus d'accord que, mettons, Montréal et ses environs, ou même Québec en ses environs, là, ça commence à être difficile là, d'avoir un accès en territoire libre. Mais si tu vas plus en région, oui, tu as raison, c'est quand même simple.
Là, tu parlais d'un plan européen, plan américain. Ça m'amène à la question du tourisme. Ça ressemble à quoi? Parce que j'ai l'impression, tu sais, tantôt, tu nous parlais de Rammstein qui sont venus jouer au Festival d'été puis qui ont fait, hey, regarde, on est au Québec, on s'en va pêcher. Ça ressemble à quoi, les étrangers? Je veux dire, y a-tu des pêcheurs européens ou américains qui viennent au Québec spécifiquement pour la pêche? J'imagine que oui. Puis dans quelle mesure ça peut ressembler en termes de retombées économiques pour le Québec, ça?
OK. Les principaux touristes pêcheurs viennent des États-Unis.
OK.
C'est sûr que là, le Québec, c'est juste au nord, mettons, du Maine, du Vermont.
Il y a une facilité, là.
New York, c'est pas loin.
C'est ça.
Ils peuvent se permettre. Les gens, prends quelqu'un, mettons, qui travaille à New York en plein centre-ville. C'est sûr que venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça doit être dépaysant, c'est un méchant temps. Il est ailleurs.
Mais oui, puis non, parce que moi, pour faire de la musique beaucoup, c'est moins long partir de Québec, aller à New York, que partir de Québec à la Rouyn-Noranda.
Mais quand je dis des paysages, je veux dire différent.
OK, à mort, oui. Okay.
De son quotidien, c'est différent.
Non, c'est
pas
sûr.
À peu près.
C'est
lui, sûr. Il tombe des nus. Là.
Oh, ouais.
T'as le fjord, t'as de l'eau salée, t'as des baleines qui nagent là. Après ça, tu t'en vas pêcher de la Wananiche, du doré. T'as peu. Là. Wouh!
Ouais,
lui,
ouais.
Lui, il est habitué, son petit taxi jaune, puis coude à coude, là, sous le coin de la rue, on est ailleurs. Fait que les autres, il y en a beaucoup d'Américains qui rêvent à ça. Les gros brochets du nord du Québec, les beaux dorés, les belles truites. C'est ces poissons-là qui les font vraiment vibrer.
Okay.
Fait que la plupart du touriste, du tourisme halieutique, donc le tourisme de la pêche, vient des États-Unis, ça c'est sûr. Parce que bien honnêtement, en Ontario, ils ont de très beaux lacs. Même dans le Maine, ils ont des beaux lacs aussi au Vermont. Il y a des beaux endroits là.
C'est beau.
C'est des beaux
t'sais,
endroits.
Quelqu'un qui s'est promené un peu là, le Vermont, le Maine, je veux dire, à part qu'il y a une frontière là c'est géographiquement parlant, c'est le même terrain. Là, ça se ressemble beaucoup. Là. Oui.
Les routes sont un petit peu mieux aux États-Unis.
Oui, oui.
C'est un autre débat. Je dirais que j'en connais beaucoup de gens. Quand tu regardes sur les forums de pêche ou si tu vas sur les Facebook de ce monde de pêche, ça arrive très souvent, je vous le dis, là, autour du mois d'avril, mai, là, que là, tu as des questions qui pop là, de Français, de Belges ou d'Européens qui disent « Hey, j'ai un petit road trip là, de planifier, j'arrive, mettons, à Montréal à telle date, puis j'aimerais ça faire le tour, là, puis me promener, puis j'aimerais ça pêcher. » Où est-ce que vous me suggérez de pêcher? Ça, j'en vois souvent passer. Donc, le tourisme français de plus en plus, là, honnêtement, vient ici.
OK.
Sinon, je pense, honnêtement, sauf quelques pourvoiries que je connais, que c'est vraiment, vraiment, vraiment des touristes d'ailleurs qui amènent de l'eau au moulin, je dirais que la plupart des territoires de pêche sont occupés par des Québécois.
OK.
Qui se promènent dans leur Québec.
Qui font du tourisme à même leur terrain.
Absolument.
OK.
Les retombées, honnêtement, je ne les ai pas, les chiffres, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chasse et la pêche, c'est des grosses retombées au Québec.
OK. Parce que évidemment, là, on parle plus de pêche que de chasse, mais en termes de chasse, on est réputé au Québec pour avoir un territoire où il y a beaucoup de bêtes, puis que, en tout cas, de ce que moi j'en sais, il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent notamment pour aller chasser à l'automne, justement les Américains. Puis j'ai mon parrain qui est un chasseur-pêcheur invétéré. Là, c'est une des choses qu'il me disait, que souvent, ça arrivait qu'il faisait connaissance des Américains parce qu'ils venaient justement à la chasse, qui était au Québec juste pour ça. T'sais. Fait que, bref, c'est intéressant à savoir parce que c'est quelque chose, tu sais, il y a des émissions là-dessus, il y a des émissions de chasse et pêche. Je pense, tu parlais des Français, je pense à Cyril, là, le pêcheur, qui a notamment son émission, toute la patente, puis que quand il vient au Québec, le monde en parlait. « Hey, Cyril est au Québec aujourd'hui », puis tu sais, on entend parler souvent, fait que j'ai un feeling que c'est quand même quelque chose qui est connu aussi en dehors d'ici. Là. Puis tant mieux si le monde, tu sais, d'ici s'approprie leur nature, là, quelque part, ça nous appartient tous aussi.
Oui, absolument.
Là, ça m'amène à mon autre question. Je voudrais qu'on parle peut-être un peu de la... Je reviens avec mon affaire des mingouins, là. Tu sais, la pêche sportive, là. Tu sais, c'est pas la pêche de « je m'envoie un samedi après-midi, peut-être avoir du souper », Mais tu sais, la pêche au sens où je pourrais faire un parallèle avec je connais quelqu'un qui allait à chasse à l'ours. Puis que dans le fond, il me disait, ah, la viande d'ours, c'est pas si bon que ça. J'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, moi, je suis un ami des animaux. Tu sais, pourquoi tu vas à chasse à l'ours si t'es pour pas le manger? J'ai une vision très amérindienne de la patente. Tu sais, je suis un carnivore, oui, sauf que, tu sais, si tu butes une bête, t'es supposé à bouffer au complet. Puis, y a-tu des, pour faire un parallèle avec les poissons, y a-tu des espèces qui sont pêchées juste pour le défi, mais qu'au final, la viande n'est pas mangeable, puis que c'est vraiment juste le défi de « j'ai sorti ce poisson-là », ça existe-tu, ça? Ça se fait-tu?
Oui, ça se fait. Je dirais que les deux espèces, comme je disais tout à l'heure, je vais revenir avec ça, les plus pêchées au Québec, c'est l'ombre de fontaine puis le doré jaune, puis c'est pour leur chair, pour la qualité de leur chair. Il y en a qui trippent aussi sur le brochet, qui disent que c'est très bon. La grise, c'est une chair différente. J'en ai déjà mangé. Puis ça aussi, c'est quand même bien comme poisson. Mais tu sais, je me souviens pas d'avoir vu dans les... Quand j'étais souper chez des amis, quand on avait le droit de le faire, mettons, un bon repas de masquinongé, de carpe ou bien de barbu. Là, je me souviens pas d'avoir vu ça. Ouais. Comprends-tu?
Okay.
C'est sûr qu'il y a des espèces de poissons qui sont moins recherchées pour leur chair, mais davantage pour le défi qu'elles représentent. Ça, c'est clair. Par contre, quand on fait ça, c'est sûr que si tu te dis « Ah ben tu sais, je veux pas blesser d'animaux, j'ai peur que ces animaux-là se blessent, ben vas-y pas. »
Ouais,
je veux dire, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On peut pas aller à la pêche à la chigan puis que se dire « Ben mon hameçon, il percera pas son palais ou une partie de sa lèvre, puis que, tu sais, qu'il y a des chances qu'il meure, OK? » Mais il y a des façons de remettre à l'eau intelligemment un poisson, tu sais. Puis il y a des façons aussi que faut que tu dises que quand ton poisson, il est blessé énormément, tu sais, qu'il saigne, puis tu vois qu'il y a l'hameçon, il est pris dans la gorge, il est pas sur le bord de l'aide.
Tu renvoies pas ça à l'eau.
Tu remets pas ça à l'eau, tu le consommes là.
Il va se faire attaquer, puis il va se faire bouffer pareil.
Tu sais, moi, personnellement, j'en mange du poisson, mais mettons, quand j'attrape du doré, la plupart du temps, je fais des remises à l'eau.
OK.
Sauf quand je vois qu'il est blessé, ben je le sais que ma belle-sœur, elle aime ça du doré.
Ouais.
Fait qu'il sera pas gaspillé, mon doré.
Ouais,
là. Je jetterai pas ça pour le. J'arriverai pas chez nous pour faire une photo à côté de l'évier et me sacrer ça à la poubelle. Ça, je trouve ça responsable, personnellement.
Ouais.
Une façon de. Il y a plusieurs façons de pêcher un poisson et de faire attention à l'animal qu'on pêche. Première des choses, le moins de manipulation possible.
Ouais.
Parce qu'à partir du moment où tu le prends dans tes mains, le monde, ils vont prendre le poisson dans les mains, puis le poisson va se mettre à gigoter. Fait que le réflexe, c'est soit de serrer plus sur le poisson, ou soit si tu l'échappes, il tombe dans la chaloupe, puis là, juste ces deux affaires-là que je viens de vous dire, c'est presque la mort assurée.
Ben, tu viens, ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, déjà là, le moins de manipulation possible.
Ouais.
Là, ça, c'est sûr que oui.
OK.
Deuxièmement, sur un hameçon, il y a un ardillon. C'est-à-dire un genre de petit...
un stopper.
Quand ça passe, ce stopper-là, il revient plus.
Oui, c'est ça.
Ben, il existe des hameçons que l'ardillon est écrasé puis il n'existe pas. C'est-à-dire que ça rentre et ça sort super facilement sans causer de blessure plus grosse qu'il faut.
Okay.
C'est sûr que tu as plus de chances de perdre de poisson parce que ton stopper n'est plus là, mais c'est pas grave. T'sais, si ton but, c'est de pas trop le blesser, vas-y avec ça.
C'est ça.
Et autre chose pour ce genre de pêche-là, les leurres artificielles.
OK.
Les poissons vont avoir tendance, quand c'est un appât naturel, comme un ver de terre, mettons, de vraiment le prendre puis de vraiment l'avaler creux. Là.
Ouais, ouais.
Mais si tu veux, c'est un appât artificiel, c'est un bout de plastique qui nage, peu importe la sorte, ils vont attaquer, mais souvent, quand tu vas ferrer, c'est un ferrage réflexe. Puis vu que ton ferrage est un réflexe, il va être souvent sur le bord de la lèvre.
OK.
Ce qui fait que ça aide aussi.
T'es capable d'enlever plus facilement. Là.
Et dernière chose que je suggère personnellement, quand on pêche aux poissons nageurs, donc les petits poissons de plastique avec une bavette en avant, il y a souvent un hameçon en arrière et un hameçon en dessous. Ça ressemble à ça souvent. Mais l'affaire, c'est que quand les poissons, une fois qu'ils ont mordu, ils vont se débattre. Puis c'est rare qu'ils ont les deux hameçons dans la bouche.
Ouais, ouais.
Mais en se débattant, l'autre qui est là, qui est lousse, là, puis qui se promène dans l'eau, ben il va finir par s'accrocher sur le poisson.
Ouais.
Ça, c'est pas bon, ça.
Non.
Fait qu'enlève-en donc un des deux trépieds.
OK.
Déjà là, si tu veux faire attention à ta ressource, ben là, il va mordre sur le côté, il va mordre sur un hameçon, puis pendant qu'il va se débattre, ben l'autre hameçon, il se pognera pas sur lui, il va en avoir juste un, il va être dans la bouche. T'enlèves ça avec une petite pince, tu laisses ça dans l'eau, puis bonsoir, c'est fini.
OK.
Fait qu'il y a des façons quand même de prendre soin, puis il y a des études scientifiques qui ont été faits, surtout dans des universités américaines, qui démontrent qu'une remise à l'eau en bonne et due forme, honnêtement, il y a un gros pourcentage de survie de certaines espèces. C'est pas toutes les espèces. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres.
Ouais.
La chigan petite bouche, comme, la chigan grande bouche.
Comme dans plein, c'est la nature, là. Veux, veux absolument. Il y en a plein d'espèces que ça fait ça dans, dans d'autres règles animales aussi.
Absolument.
Là.
Les achigans, comme je viens de nommer, okay. ça se remet à l'eau très facilement quand c'est bien fait.
OK. Puis ça, quand on fait une remise à l'eau, c'est-tu moi ou. Habituellement, je ne sais pas, l'espèce de technique, c'est comme de passer le poisson un peu dans l'eau, question de faire passer, j'imagine, l'eau dans ses branchies.
Ouais, ou... mais le problème avec ça, c'est que le poisson, il nage pas de reculons. Fait ouais, quand ouais. tu le fais d'avant, c'est beau. Mais quand ouais. tu le fais de reculons, l'eau, elle rentre par en arrière. Là. Ça, c'est pas naturel.
OK.
Fait que moi, quand je fais une remise à l'eau, personnellement.
La bonne façon, c'est quoi?
Personnellement, mettons, j'attrape un poisson. OK?
Mm-hmm.
J'ai un filet. Ça prend un filet ou quelque chose, un endroit pour le mettre. Qui a rapport avec sa grosseur. Fait que, si j'ai un tout petit filet, puis je pogne un masquinongé de 45 pouces, puis qui ne rentre pas dans mon filet, je ne suis pas plus avancé.
Ça donne pas. Ouais, c'est
ça. Un filet qui a de l'allure.
Okay.
Tu prends le poisson, tu le mets dedans. Et pendant qu'il est dedans, tu regardes premièrement si sa blessure est juste sur le bord des lèvres, pas de trouble. Fait que là, tu prends une pince, tu mets une pince sur l'hameçon, puis tu te donnes un petit coup là, pour l'enlever de là.
Mm-hmm.
Puis là, moi, je laisse le poisson dans le filet. J'y touche même pas. Là, à date, j'ai pas touché au poisson. J'ai touché avec une pince qui touche à l'hameçon. J'ai même pas touché au poisson.
Okay.
Puis là, je vois, je laisse dans le filet un petit bout, le temps qu'il reprenne un peu son énergie, parce que il y a des poissons que juste le fait de se combattre contre le pêcheur, ça va dépenser tellement d'énergie
ouais.
que le petit cœur qu'ils ont, il t'offre pas.
Il t'offre pas, c'est ça. Fait c'est que, un défi pour toi, mais c'est un défi pour lui aussi. Là.
Absolument.
Ouais.
Lui, il se dit pas, bon, un autre pêcheur. Ben non,
ouais.
il se bat pour sa vie.
Ouais. Ben oui, ben oui.
Fait que là, je laisse dans le filet, puis je le regarde. Si je me rends compte qu'il a tendance à virer sur le côté, je vais le prendre par le cul, puis je vais essayer de l'ajuster pour qu'il respire droit.
Okay.
Là, à un moment donné, tu vas le voir, là, les nageoires sur le côté vont commencer à reprendre vie. L'oxygène va mieux circuler un peu partout, il va se calmer.
Okay.
Puis là, il va commencer à donner des coups de queue pour partir. Là, t'enlèves le filet.
Là, t'enlèves le filet. Okay.
Moi, je ne fais pas d'aller-retour.
Fait là. Que dans le fond, c'est ça. T'es mieux de le laisser aller par lui-même, puis de surveiller de loin, puis de le laisser aller quand il est correct. Puis...
Oui, sauf que s'il passe okay. son temps invariablement. À aller sur le dos, là, puis à te montrer
ouais,
sa bédaine.
Il est trop
tu remets droite, tu remets sa bédaine, tu remets droite, là, à un moment donné.
Mange-le.
Il faut que tu le gardes.
Ouais. Okay.
Par respect pour la ressource.
Okay.
J'ai toujours fait ça.
Je comprends. Puis tu vois, je suis un peu dans cette logique-là aussi de, ben, garde, il est mort, là, prends-le, ramasse-le, puis mange-le. Tu sais, c'est rendu là. Excellent, garde, un gros merci parce que ça, c'est le genre d'affaire que j'ai le feeling. Souvent, c'est plus quand tu pognes des petits poissons ou les gens vont faire ah, regarde, il est trop petit encore, on va la remettre à l'eau, puis on va lui donner une deuxième chance, là. Mais
ben, c'est sûr, tu l'as pris dans tes mains, tu l'as serré pour pas qu'il bouge,
ouais, ouais,
tu l'as arraché l'hameçon de la bouche, tu le lances dans les airs pour qu'il reparte à l'eau, c'est ça vient de finir.
Non, non, c'est ça, c'est ça. OK. Fait que pour la remise à l'eau, c'est ça. Je voulais savoir aussi, tantôt, tu parlais de justement de la chair du poisson. Y a-tu une variété où. Mettons, là, je te dis, Jasmin, on mange du poisson, puis tu me fais ta meilleure recette de poisson. C'est quoi l'espèce, puis comment t'apprêtes ça? Moi, je suis un fan des papillotes sur le feu, là, mais ça c'est moi. Mais toi, comment tu apprêterais ça?
Ben moi, les deux poissons que j'ai mangés dans ma vie, puis j'ai bien, bien, bien aimé, moi, j'aime beaucoup les sushis.
Okay.
J'adore ça.
Okay? Okay.
Fait que pour moi, un saumon, ou même de la truite arc-en-ciel, un sushi, c'est excellent.
Okay. Et
moi, avec juste, je te dis, là, moi, je suis le genre de gars à. Si j'avais dans ma chaloupe un petit pot avec de la sauce soya, puis que j'ai mon poisson qui est déjà, je le sais, il est sur la glace, puis je sais que je vais le consommer, je te dis, j'en prendrais quasiment un petit bout là, je tremperais ça dans la sauce, puis boum, là, de même. Là.
Okay.
Moi, j'adore ça cru.
Okay.
Mais l'autre façon, je te dirais doré perche chaude.
Okay.
Ce sont de très, très bons poissons à consommer.
Okay.
Parce que c'est des poissons qui ont un goût hyper subtil, puis qui vont avoir tendance à prendre le goût de la chapelure autour, du citron que tu peux mettre dessus, ou du poivre, ou peu importe.
Okay.
Donc, à cause de ça, moi, je trouve que c'est un
caméléon poisson. Avec les épices ou que tu vas utiliser
absolument.
En fait.
Fait que tu sais, okay. Il se vend des petites chapelures ou même des petites farines qui ont du goût maintenant. Là, et ils se vendent même ça dans des boutiques de chasse et pêche. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'épicerie. Là, ils s'en vendent dans les boutiques de chasse et pêche.
Okay.
Tu prends ton filet, là, tu le mets dans dans ta petite chapelure, ta petite farine. Tu mets ça dans l'huile un peu. Là. Moi, ça, une perche chaude ou un doré là-dessus, c'est très bon.
Okay.
Mais je mange mes poissons beaucoup en sushi. Les papillotes, rien contre ça. Mon père a fait ça toute sa vie, des papillotes puis des poissons dans la poêle puis tout ça. Mais on dirait que je suis plus un fan de soit la chapelure pour le doré de la perche chaude ou bien soit mon bon vieux sushi, mon bon vieux poisson cru, ma truite arc-en-ciel avec mon avec mon algue puis mon riz. Là.
OK. J'aimerais ça peut-être en finissant. On parlait au début, tu sais, des défis. Ma question est en deux volets. Ta plus belle prise à date en termes de pêche, c'est quoi? Tu sais, le poisson dont tu es le plus fier, pas obligé d'avoir une photo pour le prouver, mais tu sais, ta prise dont tu es le plus fier, puis ça serait quoi ton défi? Tu sais, si je te dis, là, il n'y a pas de. Tu sais, tu as des congés, tu as du cash, il n'y a pas de trouble, tu vas où si tu veux, puis tu vas pêcher le poisson qui va te faire le plus beau défi de ta vie, c'est quoi? Fait qu'on va y aller avec ta plus belle prise, mettons.
Hey, méchante question. Les deux, c'est des méchantes questions. ma plus belle prise à vie. Bon, moi, il faut savoir que les trois espèces que. J'aime pêcher tout ce qui nage, là, je l'ai déjà dit, là, mais les trois espèces, si j'avais à faire un top 3, là. Dans l'ordre ou dans le désordre, là. J'aime la chigame petite bouche, j'aime le grand brochet et le masquinongeux. J'y rentre dans le même. Là. Puis j'aime aussi l'omble de fontaine. L'omble de fontaine, bien sûr, c'est notre moucheté nationale. C'est sûr que j'ai appris à pêcher avec ça. Puis je trouve que c'est facile de pogner de l'omble de fontaine de 8-10 pouces, mais c'est très dur d'attraper un omble de fontaine de 2, 3, 4 livres. Là. Ça, c'est difficile.
Okay. Okay.
Fait que, honnêtement, des prises de rêve, c'est niaiseux. Je sais qu'il y a du monde qui dirait, ben pourquoi tu ne parles pas d'une pêche au requin à telle place ou d'un poisson d'un 1000 livres à telle autre place? Je suis ben attaché à mon Québec. Puis j'ai le goût de pogner le plus gros, mais d'ici.
C'est ça,
on dirait que c'est ça un peu mon rêve.
Okay.
Puis là, on dirait que je réponds à ta deuxième avant ta première, mais on va y aller avec une grosse moucheté de 4-5 livres. Là, ça serait un rêve. Ça me rendrait très, très, très fier.
OK.
Puis pour les plus belles prises que j'ai faites, je me souviens d'un masquinongeux dans une rivière, mon Dieu, qui devait avoir 15 pieds de large, pas plus. On pouvait pas lancer, il n'y avait pas de place. Je faisais de la traîne avec un genre de swim bait, un poisson articulé, là, assez gros, mais qui plonge pas parce qu'il n'y a pas de bavette, fait qu'il reste en surface. Première fois que j'utilise ce poisson nongeur-là de ma vie. Pat Lauk, un méchant morceau, tout qu'un combat. Je me souviens, c'est le poisson où, quand j'ai fini mon combat, j'avais la main qui tremblait quand je la mettais droite à côté de moi. J'en ai tremblé, je pense, 2 jours de temps, là, tellement que j'étais fier de ce masquinongé-là.
Okay.
Celui-là, c'est une prise dont je suis fier. Je vais souvent à Truite Arc-en-Ciel avec un de mes amis en mai. Puis récemment, j'ai comme augmenté ma grosseur. Ma plus grosse, c'était 3,5. Puis là, l'année passée, je n'ai pas eu une de 4, 3 quarts, quasiment 5 livres. Sur un petit hameçon avec un petit œuf, une imitation d'œuf de poisson. Là. C'est tout petit. L'hameçon, c'est un hameçon numéro 6 avec un petit bout en plastique rose, une petite sphère rose là, qui a l'air d'un œuf de poisson. Ça a l'air de rien. Puis je te jure, j'ai eu tout qu'un combat là-dessus. Ça aussi, ça me rend fier. Puis je me souviens aussi dans mon fameux spot d'Achigan Petite Bouche où je vais avec mes amis là, souvent en septembre, puis je n'avais pas un qui approchait les 5 livres, là, presque 5, là, une très belle prise. Je dirais que c'est les 3 gros poissons dont je suis fier.
OK. Donc, ça répond à ma question. Un gros merci à toi. En terminant, j'aimerais ça peut-être rappeler aux gens, parce que on a parlé du nouveau, la nouvelle édition de la revue Chasse et Pêche qui sort ce printemps. Et tu as parlé aussi tantôt du fait que tu as écrit un livre pour les gens. Je mettrai la photo sur le compte Instagram si les gens veulent aller se procurer ça. Le livre, ça s'appelle comment? C'est sorti avec quelle maison d'édition?
Ça s'appelle « La pêche au Québec, guide d'initiation ». J'aborde les 6 espèces de poissons les plus accessibles selon moi, puis je peux les nommer. C'est l'omble de fontaine, le truite arc-en-ciel, le doré jaune, le grand brochet, la chigame petite bouche. Et croyez-le ou non, j'ai même un chapitre sur la barbue qui est mon 6e. Donc, les 6 espèces de poissons les plus accessibles. Puis aussi, j'ai un dernier chapitre, le 7e, sur ces 6 espèces de poissons-là, mais qu'on peut essayer de pêcher en hiver sur la glace.
OK.
Donc, c'est mon livre. Il est sorti en 2019, en juin 2019. La maison d'édition, c'est les éditions Broquet.
OK.
Puis ça, ça a été une belle aventure d'écrire ce livre-là. Puis je pense que ça a été en partie la raison, une des raisons pour lesquelles je me suis fait remarquer, puis peut-être que j'ai eu ce poste-là de rédacteur adjoint.
OK. Excellent. Puis, en terminant, t'es-tu sur les réseaux sociaux? As-tu une page de promotion pour la pêche et tout?
C'est une méchante bonne question. Je suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Depuis très peu, croyez-le ou non, ça fait faire à peu près 3-4 mois que j'ai un Facebook.
OK.
Et ça fait le même nombre de temps que j'ai un cellulaire. Fait que vous voyez le genre de chasseur, cueilleur, pêcheur que je peux peut-être être, là. Hein? Donc, je suis peu familier avec ça, mais j'ai ma page Facebook. C'est une page personnelle, mais c'est sûr que mes posts sont en majeure partie reliés à la pêche. Puis c'est à partir de là que je réponds à des questions de lecteurs de sentiers souvent. Juste récemment, il y a quelqu'un qui a posé une question à Sentier Chasse et Pêche, puis c'est tombé dans ma boîte courriel. C'était quelqu'un qui a eu un accident de travail.
Okay.
Et que l'utilisation de sa main était rendue. Il y avait 90% de ce qu'il faisait avant qu'il ne peut plus faire.
Oh, OK.
Fait que, tu sais, aller à la pêche, là, prendre un moulinet à main, lancer, ramener, c'est pas facile. Fait que là, il m'a demandé d'essayer de trouver un moulinet qui peut automatiquement, juste en appuyant sur un bouton, ramener.
Okay.
Tu sais, tu peux faire le mouvement de lancer, puis après ça, tu fais juste passer le piton que ton pouce, puis ça
ramène. Ouais.
Puis j'en ai trouvé un pour lui, puis il avait l'air, tu sais, bien content. C'est le genre d'affaires auxquelles je peux répondre, là, okay, par rapport à la pêche, là.
Excellent. Ben écoute, un énorme merci à toi pour ta disponibilité, puis on va terminer ça en te souhaitant une excellente saison de pêche, parce que là, ça commence, c'est commencé, c'est à partir de quelle date à peu près qu'on peut commencer à pêcher avec un permis officiellement, là?
Ben le permis, tu peux l'acheter à partir du 1er avril,
okay,
donc ton permis annuel. À partir du 1er avril, dans la zone où je suis présentement, qui est la zone 27, la capitale nationale, tu as le droit de pêcher la barbue à partir du 1er avril.
Okay.
Autour du 10, c'est la perche chaude. Puis autour du 24-25, c'est l'omble de fontaine en avril. Fait que là, en avril, t'as comme 3 espèces que t'as le droit de pêcher autour de la région de Québec. Et rendu en mai, là, c'est le reste. Le doré ouvre, le brochet ouvre. En juin, t'as l'esturgeon, le chien. Puis en juillet, t'as la truite grise. Puis tout est ouvert.
Parfait. Ben merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et c'est donc ce qui conclut notre entrevue avec Jasmin Perrault. Je vous rappelle que le dernier numéro de Sentier Chasse et Pêche est déjà disponible en kiosque, si jamais ça vous tente d'aller vous le procurer. Et c'est ça, j'espère que ça vous aura donné un peu le goût d'aller pêcher cet été. En tout cas, moi du moins, ça m'a donné le goût. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle je vais remédier dans les prochaines semaines. Donc là, nous, on arrive à la fin du podcast. Donc, je veux vous remercier, vous, chers auditeurs, qui êtes là du début à la fin à chaque épisode. Merci également de le partager, de vous abonner sur les sites de balado. Comme j'ai dit en début de show, en fait, on est maintenant rendu notamment sur Spotify puis YouTube. Donc, vous pouvez aller entendre les versions abrégé là-bas. Sinon, la version régulière se trouve toujours sur Balado Québec ainsi que les autres plateformes de balado diffusion. Donc, partagez ça, c'est un par un qu'on va vous chercher. Et je vous rappelle également qu'il y a le blog d'Ars Macabra, donc le souterrain qui est le podcast d'Ars Macabra. On a aussi le blog d'Ars Macabra qui est arsmediaqc.com. Allez faire un tour, il y a notamment aussi sur ce site-là que vous pouvez télécharger puis écouter le souterrain, mais il y a une section, justement, la section Ars Media, le blog, c'est plusieurs articles. On essaie de garder ça assez vivant, là, d'avoir quelques parutions, au moins une parution aux 2-3 jours. Là. Vous comprendrez qu'on est toute une équipe de bénévoles, puis on travaille d'arrache-pied pour essayer de servir du contenu aux gens, donc allez faire un tour là-dessus. Et je vous rappelle également, c'est vrai, dernier point par rapport aux plateformes de balado-diffusion. Si jamais ça vous tente, évidemment, ça c'est si ça vous tente, vous pouvez aller mettre un 5 étoiles sur Balado Québec. Ça nous permet de monter dans les classements, puis ça fait en sorte que le podcast apparaît plus rapidement dans les suggestions. Puis de notre côté, ça nous permet de rejoindre plus de monde, évidemment. Donc, merci également la ronde des remerciements avec notre commanditaire, la microbrasserie Alpha, qui est située à Québec. Là, vous comprendrez que pour cet entretien-là que j'ai réalisé, j'ai pas fait le podcast One Shot, fait que cette semaine, j'ai pas dégusté de bière. Mais la brasserie Alpha est un de nos commanditaires, donc vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet, passer votre commande et passer, récupérer ça directement en magasin. Et bon, ensuite de ça, on arrive à Moribond. Merci à Moribond pour le logo. Merci à Monarch et Angantyr pour les thèmes musicaux, ainsi qu'à Yaoi qui est au montage. Sur ce, ben moi, je vous dis une bonne semaine. Puis, ben au prochain épisode, on va avoir encore du stock pas mal parce qu'on a trois chroniqueurs qui attendent avec le couteau entre les dents. Donc, sur ce, bonne semaine.